Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Chasse aux traîtres à la Maison Blanche, Donald Trump veut mettre la main sur le haut responsable de son administration, présenté par le New York Times comme un résistant de l'intérieur. Illustration de la crise profonde que traverse actuellement le Venezuela, la ville colombienne de Cúcuta voit affluer des Vénézuéliens malades et malnutris, reportage de Benjamin Illy. En France, Richard Ferrand, de plus en plus favori pour le perchoir de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet retire sa candidature à l'investiture de son groupe. Et puis Booba et Caris, jugés ensemble à Créteil, les deux rappeurs risquent 10 ans de prison pour la bataille générale qui avait éclaté dans un hall de l'aéroport d'Orly, retardant plusieurs vols et provoquant 50 000 euros de dégâts. Un climat de suspicion et de paranoïa règne à la Maison-Blanche. Donald Trump veut savoir qui est l'ennemi de l'intérieur, l'homme ou la femme qui a publié dans le New York Times une tribune anonyme dans laquelle le président américain est qualifié de mesquin, impétueux et inefficace. Grégory Phillips, vous suivez depuis Washington cette chasse aux traîtres.
Oui, c'est la question que la Maison-Blanche et en fait tout Washington se pose. Qui est l'auteur de cette tribune anonyme? Le New York Times dit que c'est un haut responsable de l'administration de Trump, senior official comme on dit ici, mais on ne sait pas si c'est quelqu'un à la Maison-Blanche ou en dehors et à quel niveau de pouvoir se trouve la personne qui a rédigé ce pamphlet contre le président. La situation est telle que deux des plus hauts responsables politiques du pays se sont crus obligés de dire qu'ils n'étaient pas à l'origine du texte. Le vice-président Mike Pence, son porte-parole, explique que lorsqu'il signe des tribunes, eh bien, il met son nom en bas de ses textes. Et depuis l'Inde, où il est également en déplacement, le secrétaire d'État Mike Pompeo a lui aussi dit que ce n'était pas lui. Ces deux démentis, ça vous donne quand même une idée de la crise politique qui est en train de se jouer ici. Donald Trump, lui, parlait hier soir de trahison et le site internet Axios, généralement très bien informé sur la politique américaine, explique que l'an passé encore, pendant quelques temps, le président se baladait avec sur lui une liste manuscrite de gens qu'il considérait comme des taupes au sein de son administration. L'épisode du New York Times ne va sans doute pas contribuer à arranger ce sentiment de paranoïa qui peut régner à la Maison-Blanche. Et puis il y a quelques minutes, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a invité les supporters du président à appeler directement le New York Times pour connaître l'identité de celle qu'elle appelle un lâche, celui ou celle qui a écrit cette tribune, en donnant le numéro de téléphone du quotidien new-yorkais. Le standard, évidemment, risque d'exploser toute la journée.
Grégory Phillips, en direct de Washington. Les États-Unis et l'Inde feront l'an prochain des exercices militaires conjoints sur terre, mer et air au large des côtes orientales de l'Inde. Comme l'illustre cette annonce, les États-Unis déploient de grands efforts pour renforcer leurs liens avec l'Inde. Washington cherche à développer des partenariats face au développement militaire et économique de la Chine dans la région. Mais l'information du jour en Inde, c'est la dépénalisation de l'homosexualité décidée par la Cour suprême. Un vieil article du code pénal datant de l'ère coloniale britannique et parlant de sexe contre nature a été jugé illégal. Sébastien Farcy, vous suivez l'actualité indienne pour RFI. Aujourd'hui, on a vu fleurir à travers le pays des foulards multicolores et des drapeaux arc-en-ciel pour fêter la nouvelle.
Oui, tout à fait. Ce matin, les scènes de liesse étaient à la hauteur donc de l'événement. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées devant la Cour suprême où je me trouvais. Et voilà, et au moment où on a vu la première réaction tomber, d'abord sur les fils Twitter, sur les téléphones avant que les juges sortent, eh bien, il y a eu plusieurs types de réactions. D'abord, des effondrements en pleurs de certaines personnes, des trentenaires bien qui étaient prêts à combattre depuis plusieurs années et qui se sont effondrés et qui nous racontent à quel point c'était inespéré. Enfin, depuis tellement de temps qu'ils se battent contre ces discriminations et qui, voilà, aujourd'hui voient un nouveau jour. Ils étaient aussi très touchés par les mots des juges de la Cour suprême, ces cinq juges qui se sont d'abord excusés auprès des homosexuels pour toutes ces discriminations depuis tellement de temps, qui ont reconnu le droit à la dignité et à l'orientation sexuelle comme un droit fondamental. Et qui ont demandé surtout que maintenant le gouvernement, eh bien, éduque, forme les fonctionnaires et la police surtout pour que les discriminations du quotidien cessent.
Alors Sébastien, il faut préciser que l'homosexualité avait déjà été dépénalisée en Inde. Elle était redevenue un délit en 2013, 4 ans après une première dépénalisation.
Oui, tout à fait. D'abord, bon, judiciairement, il y a eu plusieurs étapes en 2009. Depuis le 19e siècle, cette loi discriminait et punissait de 10 ans de prison tout acte homosexuel. Et puis, le combat judiciaire a commencé en 2009 avec la Cour de Delhi qui a, sur appel donc d'une association homosexuelle, eh bien, suspendu cette loi du 19e siècle. Mais cette décision a été annulée par la Cour suprême en 2013. Donc, déception il y a 5 ans. pour qu'aujourd'hui, finalement, cette même Cour suprême, avec avec 5 juges au lieu de 3, eh bien, invalide définitivement cette loi pour reconnaître officiellement que l'homosexualité est légale en Inde. C'est vraiment une décision historique et on s'attend à des scènes de liesse et à des fêtes qui vont durer toute la nuit.
Merci Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture à New Delhi. Une inflation annuelle de 200 000%, le chiffre donne le tournis. C'est pourtant la réalité vécue aujourd'hui par les Vénézuéliens, si l'on en croit le Parlement contrôlé par l'opposition à Nicolas Maduro. Autre chiffre vertigineux, celui des départs. Depuis 2015, 1 600 000 Vénézuéliens ont fui leur pays, un phénomène qui a encore pris de l'ampleur ces derniers mois. Des familles entières prennent la route pour trouver de la nourriture, des médicaments et du travail, tout ce qui manque au Venezuela. Benjamin Illy s'est rendu en Colombie, à Cucuta, près de la frontière. Cucuta, agglomération 1 million d'habitants où les Vénézuéliens se comptent en dizaines de milliers. La ville est au bord de l'asphyxie.
L'hôpital universitaire de Cucuta, débordé par l'afflux de migrants.
Ça, c'est la salle d'urgence. Ça n'était jamais pas comme ça. Mais vous allez voir, les malades sont partout.
Ils sont tous vénézuéliens.
La plupart. C'est terrible. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots. Docteur. Je suis le docteur Marco Fonseca. Je suis neurochirurgien ici.
Il y a une centaine de Vénézuéliens reçus chaque jour dans cet hôpital pour se faire soigner. Ils représentent 30% des consultations.
Spécialement des enfants et des malades avec des problèmes extrêmement graves. Tumeurs, cancers, spécialement maladies infectieuses comme la tuberculose. Des choses qu'on ne voyait plus ici, la désnutrition.
Malnutrition.
Malnutrition.
Ils sont amaigris ou quoi, physiquement?
Oui, c'est évident.
Et les enfants?
Les enfants, c'est une chose à pleurer même.
Donc quand les migrants nous disent que des gens meurent de faim au Venezuela, c'est vrai?
C'est vrai, ce qu'on voit ici, au moins. C'est un pays où la santé a... Simplement, il n'existe plus, la santé publique. Une catastrophe.
Alors là, il y a une jeune femme. Hola, señora.
Hola.
Une malade vénézuélienne.
Genesis Moreno.
¿Cuántos años tienes?
27 ans.
Elle a 27 ans.
Hace 2 años me diagnosticaron con VIH.
Elle a une maladie d'immunodéficience adquirée, le sida. Elle est en train de mourir, carrément. Donc elle a décidé de venir à Colombie. Elle reçoit ses médicaments et elle commence à avoir un traitement.
Comment vous avez réussi à venir ici, dans votre état? Elle est rentrée par un chemin illégal. Elle n'a pas de papier.
Elle est rentrée avec son bébé de sang.
Son bébé est aussi atteint du VIH.
Elle vient de la ville de Maracaibo. C'est le Far West. Il n'y a personne. Il n'y a personne et tout est vide. On dit qu'il n'y a pas de quoi manger.
Je pesais 86 kilos et je suis pesando 36.
Vous pesez 86 kilos?
Oui. Maintenant, elle a 36.
Venezuela est hundida en un hueco.
Venezuela est dans un trou.
Es un país hermoso y lo han dejado en nada.
Venezuela est un très beau pays et on l'a laissé rien.
Ils ont tout détruit.
Ils ont tout détruit.
Reportage de Benjamin Illy à Cucuta en Colombie avec Fabien Gosset à la technique. Avant de discuter demain avec la chancelière allemande Angela Merkel, Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui au Luxembourg. Il vient de lancer avec le Premier ministre luxembourgeois une consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe. Le chef de l'État prépare activement les élections européennes de mai prochain et il espère parvenir à une alliance dite des progressistes d'ici la fin de l'année pour contrer les nationalistes eurosceptiques. On retrouve Isabelle Labéry à Luxembourg.
Ils sont pourtant loin d'être d'accord sur tout. En matière budgétaire, par exemple, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique ne sont pas franchement convaincus par le budget de la zone euro défendu par le président français. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs fondamentales de l'Europe, tous parlent d'une seule voix. Comme il l'a déjà fait en Espagne, au Portugal et en Scandinavie, Emmanuel Macron est donc venu chercher auprès des dirigeants du Benelux une alliance des progressistes face à la montée des nationalismes exacerbés par la crise migratoire.
Les solutions nationalistes, aujourd'hui proposées par certains, elles sont contraires à nos valeurs parce qu'elles proposent de n'accueillir personne et de ne plus respecter le droit d'asile. Il est, pour ce qui est de la France, dans la constitution de notre pays. Et consiste à dire quiconque arrive en Europe est malvenu et ne sera pas accepté. Ça n'est pas l'histoire de notre continent, et de notre Europe.
Lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron est interrogé sur l'eurodéputé allemand Manfred Weber, qui ambitionne d'être le prochain président de la Commission européenne. Or, Manfred Weber est sur la liste du Parti populaire européen, une famille politique à spectre large qui rassemble aussi bien le parti d'Angela Merkel que celui du nationaliste hongrois Viktor Orban. Le chef de l'État demande des clarifications.
On ne peut pas tout à la fois être du côté, sur beaucoup de sujets, de la chancelière Merkel et du Premier ministre Orban, c'est une certitude. Et il sera intéressant de voir d'ailleurs ce que donnera le débat au Parlement européen la semaine prochaine au sujet de la Hongrie et du respect de l'état de droit. L'année dernière, lorsque ce débat s'est tenu, plusieurs parlementaires européens des partis conservateurs ont défendu la Hongrie et pas le respect de l'état de droit.
Emmanuel Macron se veut le porte-parole des valeurs progressistes. Il entend d'ailleurs les porter aux élections de mai prochain en lançant un En Marche à l'échelle européenne.
Isabelle Labeyrie à Luxembourg. Après la nomination de François de Rugy au ministère de la Transition écologique et solidaire, la présidence de l'Assemblée pourrait bientôt revenir à Richard Ferrand, de plus en plus favori. La présidente LREM de la Commission des lois de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, vient en effet de retirer sa candidature. Et la députée des Yvelines se rallie finalement à Richard Ferrand. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Ce soir, on ne peut quand même pas dire que tout est joué.
Oui, ce désistement de dernière minute donne tout d'abord un aperçu de l'atmosphère qui règne au sein de la République en marche, sous pression face à l'enjeu. Car c'est par un mail que Yaël Braun-Pivet déclare jeter l'éponge, refusant de porter des divisions, selon ses mots. Pourtant, ce matin, sur RTL, il n'était pas question pour elle de se ranger derrière Richard Ferrand.
Non, parce que je crois que ça n'est pas à la hauteur de notre mouvement et des aspirations des Français au renouvellement. Parce que il faut qu'une élection se passe avec plusieurs candidats qui présentent des projets différents et qui incarnent des choses différentes.
Yaël Braun-Pivet qui dément ce soir avoir reçu la moindre pression et parle d'une décision personnelle prise après avoir lu la profession de foi de son concurrent. Ce retrait ouvre en tout cas la voie plus largement encore aux favoris, mais aussi et peut-être surtout à une autre candidature, celle de Barbara Pompili. Car dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on chuchote qu'il ne serait pas très opportun de soutenir Richard Ferrand, ancien socialiste, déjà plusieurs fois élu, une image trop ancien monde, écarté de son poste de ministre à cause des soupçons dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, alors même qu'une plainte de l'association Anticor est toujours étudiée actuellement par la justice. Barbara Pompili, 43 ans, présenterait de multiples avantages, ex-députée écologiste, actuelle présidente de la commission développement durable à l'Assemblée, avec deux symboles d'autant plus utiles dans une séquence compliquée pour le gouvernement, porter une femme pour la première fois au perchoir et une écologiste permettant au passage de rattraper un peu la démission de Nicolas Hulot.
Sophie Delpont, pardon. Chez les Républicains, la vice-présidente du groupe Annie Genevard annonce être candidate à la succession de François de Rugy à la présidence de l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin précise les modalités du prélèvement à la source. Maintenant que le président et le Premier ministre sont rassurés, maintenant que l'échéance est confirmée, la réforme entrera bien en vigueur le 1er janvier, le ministre de l'Action et des Comptes publics se lance dans un long travail de pédagogie, comme aujourd'hui en Haute-Marne, où il assistait à un comité de pilotage sur le sujet. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Aurélie.
Gérald Darmanin a donné notamment des précisions sur les crédits d'impôt liés aux dons.
Oui, étant donné les oppositions à ce qu'il faut bien appeler une révolution dans le prélèvement de l'impôt, Gérald Darmanin se s'est attendu au tournant. Il entame donc ce qu'on pourrait appeler un service avant-vente du prélèvement à la source, en tentant notamment de rassurer sur le sujet qui préoccupe beaucoup les ménages d'une part, les associations de l'autre, les crédits d'impôt donc liés à l'emploi, notamment d'un salarié à domicile ou à la garde d'enfants. Ce crédit d'impôt sera effectif dès janvier 2019 sous la forme d'un acompte versé directement le 15 du mois, le 15 janvier donc, sur le compte en banque du contribuable. Acompte qui sera non plus de 30% comme cela avait été évoqué, mais de 60%. Par ailleurs, cet acompte englobera aussi les dons faits aux associations l'année précédente, les cotisations syndicales et enfin les dispositifs d'investissement locatif type Cellier ou Pinel. Bref, au 15 janvier 2019, les personnes concernées pourront bénéficier directement d'une partie du crédit d'impôt auquel elles auraient eu droit en septembre. Le reste à verser le sera en juillet. Une disposition qui vise à éviter le sentiment d'une perte de pouvoir d'achat dès le début de l'année et qui pourra fluidifier la trésorerie des ménages. Par ailleurs, et c'est l'argument de vente du ministre des Comptes publics, cela devrait encourager la générosité des contribuables puisque les crédits d'impôt liés aux dons seront basés sur les sommes déjà données, de quoi, selon lui, encourager à donner encore l'année suivante. Ces derniers ajustements, une fois énoncés, ne présument évidemment pas de la réussite de la réforme. Certains syndicats de Bercy annoncent déjà un naufrage fiscal et le monde de l'entreprise reste extrêmement méfiant.
Anne Lorchouin, après les grèves qui ont duré 3 mois au printemps contre la loi ferroviaire, la SNCF prépare l'avenir. Ce matin, le PDG de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, a présenté les contours de sa stratégie. Il veut industrialiser la gestion du réseau ferré national pour poursuivre sa rénovation à moindre frais et faire circuler davantage de trains. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie.
L'entreprise va devoir faire face à l'ouverture à la concurrence dès l'année prochaine pour le trafic régional.
Et oui, en devenant une société anonyme, à capitaux publics, SNCF Réseau qui aura en charge les voies, les péages que doivent payer les trains lorsqu'ils passent sur les rails, ainsi que les gares, eh bien, espère devenir ainsi plus agile et plus compétitif pour faire face à l'ouverture à la concurrence qui entrera en ligne dès l'année prochaine sur le trafic TER. Ce qui devra passer par des gains de productivité d'1,5 milliard d'euros par an d'ici 10 ans, notamment sur l'entretien des voies. En échange, eh bien, le gouvernement s'est engagé à reprendre 35 milliards d'euros de la dette cumulée de la SNCF, qui est de 55 milliards d'euros. Patrick Jeantet, le PDG des SNCF Réseau.
Suivant les types de lignes aujourd'hui, soit quand c'est une toute petite ligne, on ferme complètement la ligne, soit quand c'est une très grande ligne, on fait des travaux sur une voie, et puis on laisse circuler sur l'autre voie les circulations, et on le fait de nuit. Alors évidemment, vous voyez que l'écart des coûts des travaux entre faire de nuit des travaux alors que vous laissez circuler sur l'autre voie, donc vous avez des mesures de sécurité extrêmement importantes, donc ça coûte de l'argent, c'est bien plus onéreux que de fermer la ligne.
Une stratégie qui aura aussi pour conséquence de faire augmenter le prix des billets de train, puisque ce nouveau statut de société anonyme, eh bien, imposera à la SNCF de ne pas dépenser plus d'argent qu'elle n'en gagne, selon Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail.
Pour circuler sur le réseau français ferré, vu la vétusté, vu le retard pris dans la maintenance pendant des années, on vient de le voir à Marseille d'ailleurs, et bien aujourd'hui on se retrouvera avec des gens qui, quand ils vont vouloir faire circuler des trains privés ou publics, vont devoir payer un droit de circulation énorme. Ils vont le répertorier après sur le billet, mais donc à un moment donné, voilà, on va se retrouver avec encore des billets qui vont augmenter, et ce sera encore les usagers qui vont payer le prix.
Le début des négociations sur la future convention collective des cheminots commence le 18 septembre prochain. Les débats risquent d'être animés avec la fin du statut de cheminot qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Hakim Kasmi, les plaintes pour violences sexuelles explosent depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur en a fait le constat ce matin en présentant le bilan de la délinquance pour 2018. Les violences faites aux femmes augmentent considérablement sur le papier, mais dans un contexte de libération de la parole, avec notamment MeToo et Balance ton porc, ces chiffres doivent être relativisé, indique Gérard Collomb. Et il souligne que de nouveaux outils numériques devraient bientôt permettre aux femmes de déposer plainte encore plus facilement, en toute discrétion. Et puis, il y a foule aujourd'hui devant l'entrée de la salle d'audience du tribunal de grande audience de Créteil, dans le Val-de-Marne. Foule de caméras et de fans qui tentent d'apercevoir leurs idoles, les rappeurs Booba et Kaaris. Les deux stars sont poursuivis pour violences aggravées et vol en réunion, avec 9 membres de leur clan respectif impliqués dans une énorme bagarre cet été à l'aéroport d'Orly. Tous risquent jusqu'à 10 ans de prison. Dans la foule, Cécile de Carvazdoux a rencontré Clara et Paco, deux étudiants à l'EHESS, chercheurs en sociologie sur le rap français. Et aujourd'hui, plutôt que le procès de Booba et Kaaris, c'est selon eux le procès d'un certain type de rap.
On peut parler de l'influence du rap américain. Après, je pense pas que Booba et Kaaris sont directement inspirés des clashs américains comme Tupac et Biggie pour avoir leur identité artistique, quoi.
On revient à une question plus large qui est la question de la culpabilisation du rap français, et du rap de manière générale parce que, il y a un focus sur le rap parce que il est représenté par des jeunes de banlieue qui plus est Booba, voilà, et métis, etc. Et du coup, on va vachement mettre l'accent sur tout ce qui se dégage de négatif ou d'offensant dans leur musique en accordant aucun droit de second degré donc à cette musique-là. Pour moi, c'est la manière dont cette violence est exprimée, donc avec des mots, avec une certaine expression vulgaire, un langage dit populaire, etc., qui fait que ça passe mal.
Je pense que les films de Tarantino, les films sur la mafia, Le Parrain, etc., Scarface, c'est dans la même veine. Alors c'est pas fait par les mêmes populations, c'est pas fait dans la même époque, c'est pas fait dans le même pays. Mais je pense que finalement, les appels à la violence, on peut les trouver où on veut, le sexisme.
De manière plus générale, on retrouve ce genre de texte. Hein. Il y a ce genre de propos ultra violents, enfin, des appels au viol, etc. Je ne dirais pas du tout spécifique au rap. Par contre, dans le rap, c'est exprimé de manière plus violente, plus brutale, plus directe et peut-être plus vulgaire, entre guillemets, au sens vraiment populaire, en fait.
Le point de vue donc de Clara et Paco au micro de Cécile de Kervasdoué à Créteil. Hervé Gardette n'est pas convaincu. La jungle de Grande-Synthe dans le Nord a connu aujourd'hui sa 4e évacuation en 4 mois. 539 migrants ont été pris en charge. Tout s'est déroulé dans le calme selon la préfecture. La moitié des personnes évacuées a été, selon l'expression consacrée, mise à l'abri vers des centres d'accueil. L'autre prise en charge par des policiers pour l'examen de leur situation. Demain vendredi, le ciel sera gris en début de journée sur la moitié nord avant des éclaircies. Plus au sud, le temps hésitera entre soleil et nuages avec quelques averses sur les massifs des Pyrénées aux Alpes. Le soleil s'imposera sur le pourtour méditerranéen. Le matin, les températures seront comprises entre 9 et 20 degrés du nord au sud, maximale 17 à 26 degrés jusqu'à 30 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.